incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Benvenuti gentili ascoltatori da parte di Paola Borgnino. Eccoci ancora insieme alla Fondazione Chanoux con Etienne Andrione.
Buongiorno.
E continua, buongiorno, il nostro percorso alla scoperta delle associazioni culturali in Valle d'Aosta.
Ecco, senz'altro, e non poteva naturalmente mancare il centro René Urlien, che si occupa specificamente di franco-provenzale, vista l'importanza insomma che questa lingua ha sia nella vita quotidiana, sia ovviamente nella storia e in qualche modo nell'identità valdostana. Presento quindi Christiane Dunoyer, che è la presidentessa del...
Bonjour.
Voilà. Bonjour Christiane, bah, on va la faire en français alors. Alors, tu te présentes peut-être un peu le centre René Urlien.
Oui, alors je suis anthropologue. Et je suis présidente du centre depuis 3 ans maintenant. Le centre est né il y a bientôt 50 ans, il est né en 67, à la suite d'une autre invention importante dans l'après-guerre valdôtain, c'est-à-dire le concours Serlogne. Concours Serlogne imaginé par René Villien, dont le centre porte le nom, qui était au départ un concours scolaire pour faire en sorte que les enfants patoisans puissent écrire, s'exprimer et valoriser leur langue dans leur classe. Rapidement, donc le concours Serlogne, il est né en 62-63. Rapidement, le concours est devenu quelque chose de beaucoup plus articulé grâce à l'intervention de monsieur et madame Chulé, donc un ethnologue et un dialectologue, qui ont imaginé des grilles pour les classes, pour les enseignants, et toute une série de méthodologies pour des enquêtes, pour un travail en classe sur la civilisation valdôtaine.
Très important, mais donc on sentait déjà à l'époque, hein, nous parlons quand même, il y a dit, donc ça, on va parler après, c'est ça?
Oui, d'accord. Grazie, è tempo per noi della prima pausa musicale e poi continueremo ad approfondire questo argomento. Continuiamo insieme, sempre in diretta, Radio Proposta in Blu, e stiamo dialogando con Christiane Dunoyer.
Oui, donc Christiane, on parlait tout à l'heure de l'institution donc de ce concours Serlogne pour quand même permettre aux enfants qui avaient comme langue le franco-provençal de s'exprimer librement et de s'exprimer ailleurs que chez eux. Il y avait donc des gens quelque part en filigrane un problème par rapport à la possibilité de étudier ou disons vivre en franco-provençal si un concours spécifique a dû être organisé.
Oui, tout à fait, je crois qu'il y avait quand même la conscience de faire quelque chose pour créer une synthèse entre la vie de tous les jours et ce qui se passait à l'école, et faire en sorte que cette déchirure que ressentaient les enfants qui vivaient dans une culture et qui ne retrouvaient pas la même culture à l'intérieur de l'école puisse en quelque manière être résolue. Et bon, après, l'évolution de la société est telle que le concours Serlogne a beaucoup d'autres objectifs de nos jours. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer une publication sur les 50 ans du concours Serlogne qui sera présentée très, très prochainement.
Très, très bien, mais nous reviendrons évidemment sur la langue en tant que telle, mais ça dans la deuxième partie de notre émission, c'est-à-dire la semaine prochaine. Là, on se concentre un peu sur le centre René Urlien, qui est donc appelé René Urlien, évidemment, à la mort de celui-ci. Et donc, il fait des choses, hein, donc il fait le concours Serlogne, il fait quand même autre chose. Et puis,
oui.
Voilà. Je parle du passé, hein, parce qu'après, on va quand même se concentrer sur l'avenir. Mais donc, de là, hein, donc de l'institution du concours à aujourd'hui, il y a eu quand même quelques réalisations fondamentales.
Oui, tout à fait. En plus du concours, alors rapidement, René Villien met en place le musée Serlogne sur la place de la Cure de Saint-Nicolas. Il réunit donc en quelque sorte les objets et les œuvres de l'abbé Serlogne, le père de la littérature franco-provençale valdôtaine. Et surtout, il fait un grand travail sur la mémoire collective, parce qu'il fait renaître le souvenir autour de ce personnage quand même très important pour la communauté de Saint-Nicolas déjà, et puis pour toute la vallée d'Aoste. Donc le musée Serlogne. Puis voilà, au fil des années, même après la mort de René Villien, il y a beaucoup d'autres choses qui naissent. Donc d'abord l'enquête toponymique, l'atlas des patois valdôtains, ces deux grandes œuvres sont par la suite continuée et relayée par l'administration régionale. Puis nous avons la conférence annuelle du centre sur l'activité scientifique annuelle. Et donc une année, c'est plutôt sur l'ethnologie, une année plutôt sur la linguistique. Et enfin, nous avons encore une publication qui est quand même assez importante et qui est connue dans toutes les bibliothèques universitaires les plus importantes qui s'occupent du secteur.
Très bien, donc j'imagine que, mais ça on va y revenir juste dans quelques instants, que vous avez des rapports bien au-delà, disons, des Alpes, et que finalement c'est aussi ailleurs que vous allez chercher vos sources et vos, disons, vos compagnons de route, hein, si
oui.
J'ose utiliser cette expression.
Mm-hmm. Nous avons...
Voilà, mais on va
d'accord,
en parler tout à l'heure. Merci, merci.
Continuiamo il nostro percorso e la nostra maggiore conoscenza del Centre d'études franco-provençal René Houyen e si parlava di collaborazioni con le università all'estero.
Oui, donc des collaborations avec la France, avec la Suisse, j'imagine aussi.
Mm-hmm.
Mais,
oui.
Donc.
Cela a débuté comme ça, disons qu'avec le couple Chulé dont je parlais tout à l'heure, l'université de Neuchâtel. Puis tout de suite après, ça a été l'université de Turin avec Monsieur Corrado Grassi et l'université de Grenoble avec Gaston Thuaillot, c'est-à-dire des grands professeurs universitaires qui s'occupaient du franco-provençal du point de vue de la civilisation et du point de vue linguistique. Cela a continué au fil des décennies et maintenant voilà que... Il s'agit de formaliser d'une certaine façon ces liens désormais traditionnels et aussi de faire en sorte que les choses aillent un peu plus loin et qu'on puisse porter de l'avant des projets scientifiques de haut niveau d'une manière conjointe.
Oui, mais donc il y a déjà quand même quelque chose de curieux, c'est-à-dire que le franco-provençal était étudié scientifiquement. Bon, la définition est de Haskell, on le connaît, mais en tout cas. À Turin, donc, à Neuchâtel, c'est toujours le cas d'ailleurs, et puis à Grenoble, hein, qui a un institut d'où, enfin, il y a beaucoup d'intérêt pour la vallée d'Ost. C'est de là d'ailleurs que venait Bernard Genin, donc l'auteur fameux de Tradition et Renouveau. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, vous êtes resté, vous, en revanche, un peu seul en vallée d'Ost, qui est, au bout du compte, quand même le seul endroit où on parle encore de façon assez répandue cette langue.
Oui, oui, tout à fait. Et il faut quand même reconnaître qu'au-delà du réseau à l'intérieur du domaine franco-provençal, donc Vallée d'Ost, région Rhône-Alpes et les autres départements français et une bonne partie de la Suisse romande, il y a un intérêt pour le franco-provençal qui va bien au-delà. On reçoit souvent des étudiants américains, allemands, autrefois. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la connaissance d'une étudiante de japonaise de l'université de Kyoto. Et donc voilà, il y a vraiment un intérêt très, très général pour notre patrimoine linguistique, pour notre situation sociolinguistique aussi.
Oui, donc ça, finalement, nous faisons de la sociolinguistique sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, et donc le franco-provençal qui s'éloigne un peu, si tu me le permets, du stéréotype de la langue un peu lourde, hein, du patois, c'est-à-dire mm-hmm. la langue parlée avec des pieds, hein, par ceux qui finalement sont les agriculteurs. Et donc pour relancer cela, vous avez donc des projets, je crois, encore.
Ah oui, oui. Et bon, déjà, pour réagir à ton affirmation, il faut aussi savoir, et cela, il faut insister là-dessus. D'ailleurs, l'année prochaine, on fera le thème de notre exposition d'été ça portera là-dessus, la littérature franco-provençale. Mais en s'intéressant à tout le domaine franco-provençal, il faut savoir que selon les régions du domaine, la littérature franco-provençale a débuté à partir du XIIe siècle. Et donc, il y a au fil de tous les siècles, à partir du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, une littérature florissante dans toutes les régions du domaine franco-provençal. Et c'est cela que nous voulons mettre en relief.
Oui, donc une langue qui se meurt, mais qui n'en finit plus de mourir, quoi. D'accord, on va reprendre tout à l'heure. Merci.
Raff ci accompagna all'ultimo spazio a nostra disposizione per questa settimana per parlare del Centre d'études franco-provençal René Houyen. Stavamo proprio parlando dei progetti e quindi dando uno sguardo al futuro.
Oui, donc un tour d'horizon sur l'institution et puis maintenant un tour d'horizon sur vos projets. disons, à l'intérieur de la Vallée d'Aoste et puis en liaison avec quelqu'un d'autre. Et puis nous allons évidemment les disséquer ou on les analyser un peu mieux la prochaine fois.
D'accord. Alors bon, déjà, je tenais à préciser que le centre, d'un côté, il s'occupe de recherche scientifique et de l'autre, de diffusion auprès du public le plus large possible. Donc on a toute une série d'initiatives aussi auprès de la population de Saint-Nicolas, auprès de la population valdôtaine plus en général. Et bon, voilà. Et sinon, pour en ce qui concerne les projets scientifiques, il faut dire que nous sommes un peu dans un tournant. Il s'agit aussi de repenser un peu le franc-provençal autrement, de faire ouvrir les yeux sur des réalités que peut-être le public qui nous connaît n'avait pas encore eu la manière de connaître.
Et donc ça, c'est le volet, disons, Valletto-Valdotin. Mais puis, bon, il y a autre chose.
Voilà. Il y a deux projets de recherche que nous sommes en train de mettre en place avec l'Université de Lyon, l'Université de Neuchâtel, quelques musées aussi de grande envergure. Et donc, musée saurésien de Chambéry, probablement le musée d'ethnographie de Genève. Donc, voilà, des partenaires très intéressants. On est en train de contacter aussi l'Institut de géographie alpine de Grenoble. Et c'est flatteur pour nous, bien sûr, d'être les promoteurs un peu d'idées de ce genre. Et en même temps, notre espoir est vraiment celui de travailler tous ensemble pour aller plus loin et pour créer aussi un réseau de chercheurs, d'étudiants qui s'intéressent énormément au franc-provençal, qui repartent peut-être avec des recherches intéressantes et dont on n'a pas la possibilité de garder des traces chez nous. Au contraire, si on pouvait devenir un peu le centre de ce réseau de recherche, voilà, cela nous permettrait de valoriser autrement ce qui se fait dans le monde.
Bene, allora noi per oggi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, ma la nostra ospite tornerà la prossima settimana e quindi ci ritroveremo ancora per parlare anche un po' dello stato di salute della nostra lingua franco-provenzale.
Grazie a tutti.
La Fondazione Emile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.